Session d'initiation à la théologie à Rimont, 3 novembre 1989, Foi et intelligence par le Père Samuel.
Ce que j'ai pas précisé, mais qu'il faudrait peut-être dire, c'est que l'intelligence, vous voyez, n'a pas une connaissance immédiate de la réalité. C'est-à-dire que mon intelligence n'accède à la réalité qu'à travers mes sensations. Il ne faut pas non plus, à partir de ce que j'aurais dit, faire de l'intelligence une espèce de capacité qui fait qu'on saisit tout le réel de l'intérieur. Vous voyez, l'intelligence progresse dans sa découverte. Pourquoi ? Parce que elle passe par la sensation. Elle la dépasse, mais pour la dépasser, il faut qu'elle passe par elle. Et c'est ça qui, pour nous, vous voyez, je dirais, ce qui est difficile, et même dans la foi, on verra que c'est difficile, parce que la foi réclame de moi, même si je suis un enfant, vous voyez, un caractère adulte dans l'intelligence. Parce que dans la foi, j'adhère à quelque chose que je ne comprends pas par mes sensations, par mon imagination. Mais dans mon expérience quotidienne, il faut précisément que je découvre en quoi est-ce que je ne connais par mon intelligence qu'à travers les sensations, mais au-delà d'elles. Alors la question de savoir pourquoi le Seigneur nous a fait comme ça, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que c'est risqué. Parce que le risque, c'est qu'on s'installe dans la sensation. Et la manière qu'on s'installe dans le raisonnement. Toutes les connaissances dont je vous ai parlé, qui ne sont pas l'intelligence comme telle, elles impliquent une certaine imagination. Quand vous faites de la science, quand vous faites de l'art, quand vous vous occupez d'un enfant, enfin tout ça, ça implique un certain monde imaginatif. On se sert d'images tout le temps quand on fait ça. Et au fond, le risque, c'est de s'installer dans l'image et de croire que parce qu'on a une image claire, on connaît. Voilà, à ce moment-là, une fois qu'on a mis l'eau dans une petite case, on a identifié, on a fait son autoportrait imaginatif, puis c'est fini, c'est classé. Vous voyez, la difficulté, c'est de découvrir qu'on ne connaît qu'à travers la sensation, mais la réalité, elle est plus, vous voyez, elle existe. Et elle est plus que simplement ce que j'en perçois par les sensations. Et qu'au fond, il y a une éducation permanente de l'intelligence qui est de passer de ce que la sensation perçoit à ce que la réalité est vraiment. Et ça se fait lentement. Et d'une certaine manière, hein, c'est la manière la plus humaine de se préparer, de préparer son intelligence à vivre de la foi. Parce que, on va le voir, hein, quand Dieu convertit notre cœur, il nous laisse avec notre intelligence comme elle est. Et quand vous regardez l'intelligence des apôtres dans l'Évangile, vous voyez qu'elle est très 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 engluée dans ce qu'ils pensent. Vous voyez, ils sont systématiquement, Saint-Pierre notamment, il est assez fantastique là-dessus, il s'oppose à Jésus parce qu'il n'a pas les mêmes idées. Je ne parle pas des pharisiens, vous voyez, mais même les apôtres. Il y a quantité de domaines dans lesquels ils n'ont pas de mauvaise volonté. Donc leur volonté, il n'y a pas de problème. Mais ils ont une intelligence qui fonctionne de manière possessive, vous voyez, c'est-à-dire qui s'arrête à ses projets, qui s'arrête à ce qu'elle comprend, qui s'arrête à ce qu'elle perçoit. Et qui est même pas capable humainement. Enfin, pas capable, si elle est capable, mais qui ne cherche pas humainement à rejoindre la réalité comme elle est, avant de faire un acte de foi. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, si on ne commence pas par découvrir que la réalité, elle nous dépasse tout le temps, bah au fond, on vivra toujours d'une foi qui est dans nos pantoufles imaginatives. Vous voyez, c'est-à-dire que on recevra la grâce de Dieu, mais à travers notre prisme, à travers notre petite vision des choses. Et le jour où le Seigneur voudra vraiment nous donner quelque chose, si ça n'a pas la tête qui nous convient, ben on dira non. Vous voyez, c'est important de découvrir que la responsabilité qu'on a par rapport au réalisme, par rapport à l'intelligence qu'on offre à Dieu, vous voyez, par rapport au réalisme de l'intelligence qu'on offre à Dieu, il est très grand. Et que ce n'est pas une question de puissance intellectuelle, c'est une question de pauvreté, vous voyez, par rapport au réel. C'est de découvrir que la réalité, c'est la réalité qui m'enseigne. c'est pas en la, vous voyez, en la, je dirais en la manipulant dans tous les sens que je vais la découvrir la réalité. Je vais pouvoir m'en servir, et la science, elle sert à se servir de la réalité. Mais pour la connaître, il faut que je la laisse m'enseigner. Et ça prend du temps. Parce qu'avant que, la réalité telle qu'elle est, je la fasse mienne en la respectant, vous voyez, c'est comme dans l'amitié. Avant de réussir à aimer vraiment l'autre comme mon ami en respectant ce qu'il est, ça prend énormément de temps. Parce que ou bien je mets la main dessus et à ce moment-là il m'échappe, et à ce moment-là je m'aperçois, vous voyez, que je ne peux pas mettre la main dessus. Alors l'avantage de l'ami, c'est qu'il crie quand on lui met la main dessus. Et qu'il demande à être aimé pour ce qu'il est, et à la fois à être accueilli pleinement en nous. Le problème, c'est que la réalité, elle crie pas, ça dépend, des fois elle crie. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous voyez, quand on confond les réverbères avec nos frères, ça finit par... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des confusions qui finissent par aboutir à des erreurs pratiques. Une mère de famille qui pour élever son enfant, se contente de lire des quantités de livres de psychologie, il y a des chances que la réalité lui montre que ça ne suffise pas, que ça ne suffit pas. Et que c'est une part de la réalité, mais que l'enfant ne se réduit pas à un schéma psychologique. Donc c'est pour dire que ça, la réalité aussi nous éduque. Mais elle réagit moins vivement que l'ami. Et donc ça réclame de notre part, vous voyez, j'irais une responsabilité plus grande quant à la docilité de notre intelligence au réel tel qu'il est. Alors ce qu'on va regarder, donc ça c'était simplement pour dire que l'intelligence, elle progresse dans sa connaissance. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que c'est que la foi humaine, puisqu'on utilise le mot de foi. Il y a en nous un fonctionnement d'intelligence qui s'appelle la croyance. C'est le même mot, vous voyez, croire, c'est le même mot quand il s'agit de croire à ce qu'on nous dit aux informations du journal de 20h et de croire au mystère de la Trinité, c'est le même mot. Donc il s'agit d'abord d'essayer d'analyser qu'est-ce que c'est. Comment est-ce que l'intelligence fonctionne quand elle croit au point de vue humain? Et si Dieu, par l'Église et par l'Évangile, me parle de la foi, de croire en quelque chose, il faut que j'essaye de voir ce qu'il y a de commun entre la foi chrétienne et la croyance, et ce qu'il y a de différent. Parce que c'est la même chose, il y aura toujours de danger. Ou bien je vais réduire la foi chrétienne à une foi humaine, et je vais dire oui, au fond... La foi chrétienne, c'est la même chose que la foi du musulman en la divinité du Coran. La seule chose, c'est que ça porte sur le Christ au lieu de porter sur le Coran. Oui, ça sera un premier excès, c'est-à-dire de réduire la foi chrétienne à une foi religieuse. Et l'autre excès, ça sera de dire, mais absolument pas, la foi chrétienne, ça n'a rien à voir avec soi, c'est une illumination divine. Et donc, on vit déjà de la vie éternelle dans son intelligence. Ce qui n'est pas faux en plus. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une obscurité, vous voyez, une pauvreté de la foi chrétienne dont on voit bien qu'elle garde un mode d'adhésion et que je n'ai pas l'évidence de ce en quoi je crois. Je n'ai pas encore la vision béatifique. Vous voyez que de bien le préciser, ça m'aide aussi à ne pas confondre, vous voyez, les lumières charismatiques qui me sont données avec la vision béatifique. Non mais vous riez parce que ça peut exister. Non, parce que c'est vrai que la foi, on va le voir, hein, que la foi divine, que la foi chrétienne comme telle, c'est une divinisation de l'intelligence, mais dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi humaine? C'est quand mon intelligence n'accède pas directement à la réalité. Oui, je ne crois pas que ça c'est une table, j'en ai l'évidence. Ça ne fait pas partie de ma croyance. Tout ce dont j'ai l'expérience immédiate, je ne le crois pas, j'en ai l'évidence. Vous voyez, la foi, on va le voir, que la croyance s'oppose à l'évidence. Alors, c'est assez complexe, la croyance ou la foi, parce que entre moi et le réel, il y a deux choses. D'abord, il y a un intermédiaire, il y a un médiateur. Et puis il y a un message. Et mon intelligence adhère à une vérité. Le message y contient un certain nombre d'affirmations. Mon intelligence reçoit pour vrai ce qui m'est dit. On vous dit que il y a eu un accident avec un avion au-dessus du Tchad. Vous n'en avez aucune expérience. Aucune, rien du tout. On vous le dit. Et c'est quelqu'un qui vous le dit. Et en fonction de tout un nombre de critères qu'on va voir, vous y croyez. Vous considérez que c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on fait. On fonctionne comme, tout le temps comme ça. Hein. On vient vous dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'entrée. Il faut que vous alliez le voir. D'accord, ben, vous le croyez. C'est votre frère qui vient vous le dire. C'est le frère hôtelier qui vient vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous attend à l'entrée. Vous n'avez aucune expérience. Si vous n'avez pas entendu sonner. Vous y croyez, donc vous y allez. Et si c'est le 1er avril, eh ben, que la foi, c'est pas l'expérience. Donc si vous voulez, c'est important pourquoi ? Parce que quand j'ai l'évidence, donc quand j'ai l'expérience immédiate, ça n'a plus de sens de croire. D'accord ? La foi, elle est, si vous voulez, elle est ordonnée à l'évidence. Et si j'ai la possibilité d'aller me rendre compte par moi-même, j'irai me rendre compte par moi-même. Mon intelligence, elle est faite pour l'évidence, vous voyez ? Elle est faite pour atteindre le réel de manière immédiate. Elle n'est pas faite pour n'atteindre le réel qu'à travers l'intelligibilité qu'on va me donner. Mais la signification, on va me dire quelque chose qui me renseigne sur quelque chose d'autre et qui n'est pas la réalité elle-même. Et mon intelligence, elle est faite pour la réalité. Si vous voulez, elle n'est pas faite pour le discours. Elle n'est pas faite simplement pour recevoir des messages, des informations, mon intelligence. Alors le problème, hein, c'est que quand on suscite l'exercice de la croyance et de la foi vis-à-vis d'une quantité industrielle de choses et de manière quotidienne et permanente, mon intelligence, elle ne s'exerce plus du tout. Si on vous demande de croire à toute l'histoire de France, vous voyez, à toute une quantité de choses dont vous n'avez aucunement l'expérience, quand on vous demande de croire toute la journée à toutes les informations qu'on vous donne, et que pendant 10 ans d'études, vous voyez, on vous demande d'ingurgiter des choses dans lesquelles vous croyez sans en avoir l'expérience, et que ça n'est que dans les études supérieures au bout de vous voyez, choses, en mathématiques, c'est très visible. On commence à comprendre à quoi servent les mathématiques quand on arrive dans les écoles supérieures. Avant, on vous a demandé de croire que ça servait à quelque chose. Et vous vous apercevez à ce moment-là que ce à quoi ça sert n'est pas tout à fait ce en quoi, vous voyez, la confiance qu'on y mettait. Parce que c'est peut-être pas ça qui forme le mieux l'intelligence humaine. Mais c'est simplement pour dire que quand on suscite en moi, quand on réclame de moi une adhésion permanente à quantité de choses que je pourrais expérimenter, bien, au bout d'un certain temps, je n'éprouve même plus le besoin d'aller expérimenter les choses. Vous voyez, on m'a dit, je sais tout. J'ai pas besoin de bouger, je sais tout. J'appuie sur mon bouton d'ordinateur, j'ai toute l'encyclopédia universaliste, vous voyez, qui défile où je veux, quand je veux. J'ai toutes les bibliothèques du monde à mon service. Donc je sais tout. Je n'ai qu'à appuyer sur le bon bouton. Mais vous riez, mais c'est, vous voyez, c'est important parce que ça aussi, ça tue la vitalité de l'intelligence. Donc la foi, du coup, là-dedans, on va voir comme par certains côtés, on va voir que c'est moins crédible que ce qu'on me dit à la télévision. Vous voyez, on va voir que c'est très impressionnant comme retournement. Vous voyez, on vit dans un monde dans lequel la croyance est permanente et dans lequel la foi est complètement morte. Et c'est important de réfléchir là-dessus et de faire le bilan dans une journée, combien il y a de choses qu'on a cru et combien il y a de choses dont on a eu l'expérience. Alors, c'est pas gênant que je croie. Le tout, c'est que je devrais en éprouver une insatisfaction radicale. D'avoir vu des documentaires sur les éléphants, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller les voir. Alors, vous voyez ce que je... Je ne suis pas fait pour savoir des choses par autre chose. Ça n'a pas du tout la même tête. Alors, ensuite, mon intelligence, elle adhère à ce qui m'est dit, à la signification, si vous voulez, ou à l'intelligibilité du message. En fonction de quoi est-ce qu'elle adhère à ça? En fonction de la crédibilité du message. Alors, qu'est-ce que c'est que la crédibilité? C'est au fond, il y a deux dimensions dans la crédibilité. D'une part, ce qu'on vous dit correspond à ce que vous savez déjà. Donc ça vous semble juste. Vous savez que il y a des chances, il y a quelqu'un qui devait venir vous voir aujourd'hui, on vous appelle à l'entrée, donc il y a des chances que ça soit vrai. Par contre, si personne ne vous connaît, vous êtes dans un endroit où personne ne vous connaît et tout d'un coup on vous demande au téléphone, vous vous demandez, vous voyez ? Non mais c'est tout bête, mais on fonctionne comme ça. La crédibilité, elle est en fonction de ce que je sais, par rapport à moi. Donc elle joue sur le lien entre le message et moi. C'est beaucoup plus compliqué que la connaissance directe, hein. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, la crédibilité, c'est aussi la cohérence interne de ce qu'on me dit. C'est très simple, hein. Si vous regardez aujourd'hui, comment dans les médias, tout le système de communication, il est essentiellement basé sur la crédibilité qui est l'accord entre moi et le message, absolument pas sur la cohérence interne. On peut vous faire avaler des choses qui sont absurdes. Si ça correspond à votre vision, vous voyez, même pas à votre vision des choses, mais à votre sensibilité symbolique, vous avalez, ça n'a rien à voir. Regardez les publicités. Si vous les analysez, il n'y a aucune cohérence interne. La seule cohérence, c'est que ça correspond... Ça fait agir en vous des choses qui sont cohérentes, par contre. Vous voyez, et un bon speaker à la télévision, c'est quelqu'un qui sait parler de manière telle que ça vous flatte, si vous voulez, votre adhésion. Vous voyez, ça vous invite à y croire. Mais il peut vous dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, c'est pas gênant. Vous riez, c'est... Prenez le temps d'analyser ça. Et vous verrez que souvent, c'est des raisonnements, souvent les raisonnements, c'est du sophisme de A à Z. Il n'y a aucune rigueur de raisonnement, vous voyez, c'est des raisonnements enfin, qui ne sont pas du tout logiques, qui ne sont pas du tout cohérents, mais qui sont affectifs. La rhétorique, c'est ça. Dans la rhétorique, comment est-ce que vous faites? Vous vous servez d'un raisonnement qui va toucher le public que vous avez en face. Mais que ça soit cohérent, que ça soit vrai, aucune importance. D'accord? Alors, si vous cherchez à enseigner, vous essayez de montrer la cohérence interne, la vérité de ce que vous enseignez. Que quand vous suivez un cours, vous y croyez. Si vous n'avez pas l'expérience. Alors, et puis, donc ça, c'est la crédibilité. Vous voyez qu'il y a un double aspect par rapport à moi et par rapport à ce qui m'est communiqué. Je dis ça parce que la foi, c'est juste l'inverse. Ça ne peut rien du tout me dire du tout, la Trinité. Mais rien du tout, ça ne me dit rien du tout. Mais parce que c'est la vérité, j'y adhère de manière plénière. Ça m'aide mieux quand ça me dit que, vous voyez, quand ça... Mais on verra, hein, que... Enfin, on verra après ça, parce que c'est comment fonctionne la foi. Et puis, il y a un autre aspect. Donc, d'une part, la crédibilité du message, d'autre part, la confiance que j'accorde, le crédit que j'accorde au médiateur. Et la confiance, elle est à celui qui me parle, elle n'est pas au message. Je ne fais pas confiance à un message. Je fais confiance à quelqu'un. Donc vous voyez, celui qui me transmet le message, ça, c'est pas nécessairement quelqu'un d'ailleurs, ça peut être un document historique, parce que vous en avez plein de formes de médiateurs, ça peut être, vous voyez, un document. Vous voyez, là où ça fonctionne aussi, la foi tout le temps, c'est quand on vous écrit des lettres. C'est vrai, on croit que c'est l'autre qui est, ou au téléphone. On croit que c'est l'autre qui est de l'autre côté. Alors, la crédibilité est très très... Vous voyez, les critères de crédibilité sont très très forts, mais je n'ai pas l'expérience. Quand c'est un répondeur, vous mettez des fois 2-3 secondes avant de vous apercevoir que ce n'est pas l'autre, c'est le répondeur. Vous savez, quand vous êtes dans les avions aussi, où on vous explique sur un ton, ou dans les gares, c'est des messages préenregistrés. Vous voyez, c'est, là, ça rend lucide sur la différence entre ce que c'est que la croyance qui passe par un médiateur et l'adhésion immédiate. On vous annonce le train qui entre en gare et vous apercevez que c'est l'autre qui a appuyé sur un bouton. Pourquoi ? Parce qu'au beau milieu, il arrête son message pour vous expliquer que pourquoi il faut changer de quai. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a, mais qu'au fond, nous, on y croit, il n'y a aucun problème. On ne devrait pas supporter. Vous voyez, on devrait. Ça devrait être pénible. On devrait préférer avoir quelqu'un qui vous dit. Après, vous savez plus qui est le bon, le vrai, qui est le faux. Parce que des fois, c'est ça le pire. Je vous assure, je viens de prendre l'avion, c'est ce qui s'est passé. Celui qui parlait enregistré, il parlait mieux que celui qui parlait en direct. Celui qui parlait en direct, il avait une voix qui était complètement stéréotypée. Alors que l'autre, manifestement, c'est quelqu'un, vous voyez, qui sait parler, qui sait vous faire croire qu'on y est. Bon, enfin, ça, c'est... Alors, ce qui est important, c'est de voir que là... Vous voyez, de prendre deux extrêmes. Donc, il y a les informations. Et j'ai exercé, vous voyez, à repérer les endroits où je ne suis pas assez critique. Quant à mon adhésion, j'adhère spontanément. Mais est-ce que cette adhésion, elle est vraiment intelligente? Ou est-ce qu'elle est complètement affective? Et puis il y a un autre extrême où la croyance devient quelque chose de très important et même de capital. C'est dans les traditions religieuses. Vous voyez, où là c'est très impressionnant, c'est juste l'inverse. C'est à cause de la dignité du médiateur, c'est-à-dire c'est à cause du sage, c'est à cause de la dignité de la tradition, qui est une tradition de sage. Une tradition éprouvée par des gens qui ont vécu, vous voyez, d'une recherche de Dieu et d'une recherche de vérité et d'une vie humaine authentique. Mais où la cohérence du message, vous savez, quand vous lisez les livres hindous, les Védas, ou la cohérence interne, c'est pas toujours évident. Hein. La Bible est d'une certaine manière beaucoup plus cohérente. Mais c'est la dignité du médiateur. Alors à ce moment-là, pourquoi c'est très important? Parce que c'est plus du tout des informations qu'on me communique. On me communique quelque chose qui va être déterminant pour ma vie. C'est pas déterminant pour moi qui est, vous voyez, qu'on m'informe que le TGV Atlantique va jusqu'à Bordeaux. Ça n'a aucune importance dans l'ordre de ma vie. Sauf si je dois le prendre, mais c'est complètement secondaire. Alors que si il y a une tradition qui me dit que Dieu existe, ça change tout. Et qui m'explique comment est-ce que je dois le vénérer. Qu'est-ce que c'est que l'ordre du monde? Quelle est la sagesse avec laquelle Dieu a créé? Vous voyez, à ce moment-là, ma foi devient quelque chose, de très grave, et j'ai à peser la crédibilité de ce qui m'est dit avec beaucoup de sérieux, et en même temps, mon adhésion, elle est, vous voyez, c'est le pari de Pascal, c'est ça. En fait, c'est l'équivalent, c'est ce qui se passe dans une tradition religieuse. C'est qu'à cause de la crédibilité et du sérieux de ce qui vous est donné, vous y croyez et vous engagez toute votre vie. Vous avez quand même des millions, des milliards de gens qui croient en Dieu ou en la divinité à partir d'une tradition religieuse. Donc ils n'en ont pas de découverte propre, personnelle, par l'intelligence, et qui n'ont pas par la foi. Vous voyez, c'est important de voir que là, la foi et la croyance devient quelque chose de très important. Mais elles gardent la même structure. Oui, parce que je vous dis dans les informations, le médiateur, hein, la crédibilité du médiateur, on ne se fait pas d'illusions. Et donc si vous y croyez, c'est pas parce que c'est, je ne sais pas trop qui, vous voyez, M. Mourouzi ou quelqu'un d'autre. Vous y croyez parce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on vous dit et ce que vous croyez, déjà. C'est bien connu d'ailleurs. Le but d'un journal, c'est qu'il a un certain public et il faut qu'il écrive des choses en fonction du public qu'il a. Ça rentre dans les cases. Et s'il sort des cases, ça ne va plus. Parce que ça perturbe le lecteur. Et que le but de l'information, c'est de ne jamais perturber le lecteur. Non mais vous riez, quand vous faites de travail, quand vous étudiez, c'est des lois enfin, qui sont tout à fait évidentes, que tout le monde connaît. Dans le cas de la tradition des jeux, c'est juste l'inverse. C'est évident que vous voyez, quand vous regardez précisément la tradition hindoue, il y a des choses qui sont pas, qui ne semblent pas en connaturalité, vous voyez, avec l'homme de manière spontanée. Il y a des descriptions, vous voyez, sur la violence des dieux dont on se dit, bon, ben, vous voyez, c'est pas très facile de croire en ça. Mais c'est à cause de la dignité du médiateur. Alors dans la foi théologale, dans la foi chrétienne, Dieu est à la fois le médiateur, le message et le réel. Et il est même celui qui suscite l'action, l'adhésion de mon intelligence. Alors vous voyez, il va falloir qu'on étudie ça d'un peu plus près. Que la foi chrétienne soit une adhésion à ce qu'est Dieu, ça on l'a vu, d'accord, ou au regard de Dieu sur l'homme, ça on est d'accord. Que Dieu soit l'objet du message, on est d'accord aussi. Ce qui est plus difficile, c'est de découvrir que c'est Dieu qui est médiateur, pas simplement à cause du Christ. Pourquoi ? Parce que c'est pas le prophète qui parle. C'est Dieu. Vous voyez, tout le mystère de la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir. Le mystère de la parole de Dieu, c'est que Isaïe n'est pas simplement un sage qui me parle de Dieu. Le livre d'Isaïe, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète. Il a parlé par les prophètes. C'est pas la même chose de dire il a parlé par les prophètes et les prophètes ont parlé de lui. Vous voyez, on va voir que c'est très important parce que c'est là que se situe tout le problème de l'exégèse contemporaine, de la juste manière de comprendre l'exégèse. Et toute la recherche historico-critique sur tout le milieu dans lequel ont été écrits les textes saints. Oui, et c'est le propre du mystère. C'est que dans la foi, c'est Dieu lui-même qui est le médiateur. Et c'est lui, vous voyez, c'est parce qu'il est le médiateur, et donc parce qu'il est présent dans le message. Il est présent dans la parole. Et pas de manière lointaine, de manière immédiate. Vous voyez, c'est ce qu'on verra. Hein. Le prophète ou l'évangéliste, il n'est pas un intermédiaire qui éloigne Dieu du peuple, c'est juste l'inverse. Il est un intermédiaire qui rapproche. Dieu peut être encore plus proche de nous par la parole de Dieu parce qu'il s'est servi d'Isaïe. Que s'il lui avait dicté, vous voyez, que si on avait comme le livre des Mormons, quelque chose qui nous était descendu du ciel et qu'on avait dicté. C'est ça qu'il faut découvrir, c'est qu'il est plus proche à cause du mystère de la parole de Dieu. Alors, on va voir qu'il y a un intermédiaire, vous voyez, encore une fois, il y a un médiateur. Il y a un intermédiaire autre que Dieu lui-même, qui est, on va le voir, les prophètes. Qui est la parole humaine. Mais celui qui parle dans cette parole humaine, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Et le don de la foi, c'est que précisément, je reçois dans mon intelligence cette attraction de Dieu à travers sa parole. C'est plus moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans la foi, c'est celui qui me parle, qui est Dieu, qui va provoquer en moi l'adhésion. Donc si vous voulez, je n'ai pas à réfléchir en mon fort intérieur, si vous voulez. Quand on me dit quelque chose, j'ai à réfléchir pour voir si c'est crédible. Le propre de la foi, c'est que si je le reçois, l'attraction de Dieu est telle que j'adhère avant de réfléchir. Normalement. Si j'ai vraiment une foi vivante. C'est-à-dire si, vous voyez, si je reçois la lumière de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il peut y avoir une double démarche. Vous avez des gens qui cherchent Dieu en essayant de comprendre la cohérence des Écritures, qui travaillent sur la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à la recevoir comme parole de Dieu. Et quand Dieu, en travaillant dans leur cœur, leur fait découvrir, vous voyez, je dirais, c'est un don à ce moment-là, c'est un don, les attire à travers cette parole, à ce moment-là, il la découvre d'une manière qui est complètement différente. Il bascule, si vous voulez. Il y a un regard sur la parole de Dieu qui n'a plus rien à voir. Alors, quand quelqu'un vous voyez, a travaillé 5 ans sur la parole de Dieu sans avoir la foi, en cherchant, et que tout d'un coup Dieu lui demande la lumière, il l'oublie plus jusqu'à la fin de ses jours. Mais le problème, c'est que quand on a été baigné dans une atmosphère chrétienne, vous voyez, on ne prend même pas le temps de découvrir ce que c'est que la manière dont il faut la recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire que je dois adhérer avant de réfléchir. On va voir que ça n'enlève rien du tout à ma réflexion, ça la rend intelligente. Et cette attraction, c'est-à-dire ce lien que Dieu fait par le don de sa grâce entre mon intelligence et ce qu'il est, et son message, précisément parce que c'est lui qui en est l'auteur, il est infiniment plus certain que tout le reste. Vous voyez, dans la foi humaine, la certitude que j'ai de la vérité de ce qu'on m'a dit, il est approximatif, c'est moi qui l'estime en fonction de je vous dis, du médiateur, de ce qui m'est dit. Alors que là, la certitude, c'est Dieu lui-même qui me la donne. Ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui va éclairer son message. Et c'est pas moi qui, en comprenant le message, vais découvrir qui est Dieu. Ça veut dire que le seul qui puisse m'éclairer sur la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors on va voir, il m'éclaire en réclamant la coopération de mon intelligence, mais c'est lui qui m'éclaire. Oui, je sais bien, c'est un retournement qui n'est pas commode. Hein. Dans la foi humaine, mon intelligence adhère à un message en fonction de sa validité et de celui qui me le transmet. D'accord ? Donc c'est uniquement moi qui travaille. Et je suis responsable des bêtises auxquelles j'ai cru qui étaient fausses. Et donc normalement, dans toute adhésion, dans toute croyance, il y a un certain doute, il y a une certaine hésitation, qui est normale puisque je n'ai pas d'évidence. Donc j'estime les choses. Je peux parier, je peux y engager ma vie, mais il y a toujours un certain recul. Je dois toujours garder un regard critique, si vous voulez. Ça, c'est la manière dont fonctionne la foi, au point de vue humain. Au point de vue divin, il y a aussi une adhésion, et une adhésion qui n'est pas immédiate. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la foi. C'est qu'il y a une adhésion qui n'est pas immédiate, qui passe par quelqu'un et qui passe par un message, et qui donc implique pour mon intelligence humaine toute la difficulté qu'implique la croyance humaine. D'accord ? Mais la différence, c'est que cette adhésion, c'est plus moi qui en suis source, c'est Dieu. C'est Dieu qui est cause de l'adhésion à la parole de Dieu, c'est pas moi. Même si psychologiquement j'en ai l'impression, vous voyez, c'est pas parce que je fais des actes de foi. C'est Dieu qui est cause de mes actes. C'est lui qui me donne la grâce pour faire des actes de foi. Même si je ne la sens pas, la grâce. Alors, psychologiquement, c'est exactement la même chose. Et donc, je vais dire, mais oui, c'est normal que je doute. Ben non, c'est pas normal que je doute. Si c'est un mode de croyance humain, c'est normal que je doute. Mais si la foi, c'est Dieu lui-même. Dieu, il me laisse pas douter. Puisqu'il me fait, toucher. Alors, vous voyez, c'est là qu'on retouche. Il me fait toucher le réel à travers ce qu'il me dit. Mais je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux pas l'assimiler.
C'est la grâce de Saint-Jean.
Oui, pour l'Apocalypse, oui. Mais dans l'Apocalypse, c'est des symboles. Il a vu. Il n'a pas vu le mystère du Verbe.
Il l'a vu, il a touché, il a vu, et puis il fait croire.
Oui, mais précisément, ce que dit saint Jean, c'est que quand il dit qu'il a vu, qu'il a touché le mystère du Christ. Et par lui, le mystère de la divinité. Mais ça ne veut pas dire qu'il était dans la vision. Vous voyez, la foi est une vision. La foi est une certaine vision parce que j'atteins, je touche quelque chose du réel. Et c'est ça qui me permet d'en vivre. Mais je ne le comprends pas. Mais je suis fait pour le comprendre. Vous voyez, je suis fait pour recevoir Dieu, pas simplement dans l'obscurité. Je suis fait pour le découvrir avec évidence. Saint Jean n'a jamais eu l'évidence du mystère du Verbe de Dieu. Mais il l'a contemplé avec certitude. Il en a vécu. Et alors, ce qui est difficile, c'est que l'action de Dieu ne change rien au conditionnement de notre intelligence. C'est-à-dire que il y a toujours cette obscurité, et du côté de mon intelligence humaine, face au mystère de la Trinité, si elle la regarde humainement, vous savez, c'est pas au point de vue de la crédibilité. Alors présentement, le travail théologique, ça sera de montrer que c'est quand même crédible. Montrer que c'est pas contradictoire. Vous savez, la non-contradiction comme crédibilité, c'est quand même pas très fort. Si aux informations, on se contentait de vous dire « croyez-y parce que c'est pas contradictoire », eh ben vous iriez pas très loin. Vous voyez, comme motif pour y croire, c'est pas suffisant. Donc c'est pas de disserter théologiquement sur la relation pure dans la Trinité qui va convaincre un athée que la Trinité existe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas sur la ce que l'intelligence du croyant va essayer de faire en face du mystère de la foi. Parce qu'il va essayer d'aller le plus loin possible avec son intelligence. Mais c'est pas ça qui va aider quelqu'un qui n'a pas la foi. Les arguments théologiques, ça n'a jamais aidé un athée ou un incroyant. Quelqu'un qui est mal croyant, vous voyez, ou qui n'a pas une foi très forte, ça peut l'aider. Mais pas celui qui n'a pas la foi, parce que celui qui n'a pas la foi, ce qu'il faut, c'est déjà préparer son intelligence à recevoir cette grâce. Mais il ne faut pas vouloir lui donner l'objet de la foi, vous voyez, quand il n'a pas encore la foi. Il ne faut pas lui réclamer d'adhérer à quelque chose auquel seul le croyant peut adhérer. Par contre, ce qu'on peut lui réclamer, c'est de préparer son intelligence à recevoir la réalité comme elle est, et donc de s'ouvrir à la présence de Dieu. Mais ce qui est très dur, c'est que ce don de la grâce, il est gratuit du côté de Dieu. Et que c'est vrai que vous avez des gens, ils sont prêts et ils demandent la grâce. Alors, elle leur sera toujours donnée. Mais des fois, le Seigneur les fait attendre. C'est impressionnant, ça. Quand vous voyez des gens qui travaillent sur la parole de Dieu et qui essaient de comprendre ce que vous leur dites sur la parole de Dieu, sur la manière, et ils n'ont pas encore la lumière. Mais quand la lumière est donnée, c'est important de voir qu'il n'y a plus de place pour le doute. Vous voyez, je dirais, la preuve même de ce que Dieu me dit, c'est lui-même. Alors la tentation qu'on a, nous, c'est de se rattraper sur autre chose. Vous voyez, c'est de chercher des raisons de croire. Ben, au sens strict, il n'y a pas d'autre raison de croire que Dieu lui-même. Le reste, si vous voulez, ce n'est pas des raisons de croire. C'est des raisons de ne pas s'opposer à la foi. Alors ça, oui, il y en a beaucoup. Des raisons pour être ouvert à la foi. Mais il n'y a pas de raison de croire. Ce n'est pas raisonnable de croire. Dans tous les sens du terme, ce n'est pas raisonnable. Alors c'est là qu'il y a l'obéissance. Parce que du coup, mon intelligence adhère à une réalité, à un mystère, d'une manière qui la dépasse infiniment. Et donc mon intelligence, d'une certaine manière, vous voyez, elle vit à ce moment-là à un rythme qui n'est plus du tout le sien. comprenez qu'une enfant de 3 ans, qui s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus, elle croit la divinité du Christ, vous comprenez qu'au point de vue de l'intelligence humaine, c'est quand même un peu... Vous voyez, c'est absolument impossible. C'est complètement impossible. Savoir ce que c'est qu'une personne humaine, c'est bien, au bout, peut-être à 35 ans, avec la grâce et la foi et purification du Seigneur. Et pourtant, dans la foi, j'adhère au mystère du Christ, Dieu et homme. Ça veut dire que j'en vis. Vous voyez que mon intelligence, d'une certaine manière, dans l'obscurité de la foi, adhère à ça. Vous voyez, c'est pour ça que le mystère de la foi, en même temps, il est ordonné à la vision béatifique, hein, puisque ce que je suis fait pour avoir l'évidence. Et en même temps, il me permet de vivre du mystère que je contemplerai dans la vision béatifique à travers mon conditionnement le plus nul soit-il. Parce que c'est vrai que le conditionnement de l'enfant, au point de vue du développement de l'intelligence, c'est quand même nul. C'est très touchant. Mais c'est complètement embryonnaire, vous voyez, il n'y a rien comme développement de l'intelligence. L'intelligence est encore dans les langes. Vous voyez, il est complètement dans le symbolisme et dans l'affectif. Et que pour que l'intelligence se déploie et se dénoue, vous voyez, se développe, mais la foi n'attend pas le développement de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que je ne vis plus à ce moment-là, mon intelligence ne vit plus simplement selon son mode à elle. Elle ne vit plus selon sa manière de raisonner, sa manière de comprendre. Elle vit en s'appuyant, plus qu'en s'appuyant, vous voyez, en même temps qu'elle s'appuie sur Dieu, elle peut vivre de ce que Dieu lui dit d'une manière qui la dépasse infiniment. Et un enfant, quand il commence à être un normalement, il s'appuie sur ce que lui disent ses parents. Et du coup, ça lui permet de grandir. Pourquoi ? Parce que son intelligence s'appuie sur quelque chose qui le dépasse. Et que tout l'art des parents, c'est précisément de lui. Dès qu'il est capable de comprendre, vous voyez, de développer sa capacité de compréhension. Et de ne pas sans cesse lui réclamer d'obéir quand il est capable de comprendre. Bah de la même manière, Dieu nous réclame de s'appuyer sur son intelligence à lui. C'est ça le mystère de la foi. C'est d'obéir à son regard à lui. Que mon intelligence vive, si vous voulez, au rythme du regard de Dieu. Alors ça fait regarder les choses de très haut, même si c'est dans l'obscurité complète. Vous voyez, surtout, ce qui est très important, c'est que ça entraîne l'intelligence complètement au-delà, infiniment au-delà de ses capacités de jugement. Il n'y a plus du tout... Vous voyez, l'intelligence, à ce moment-là, elle bascule dans quelque chose qui la dépasse infiniment. Et donc, même si pour m'aider à croire, je me sers de ce que je comprends, et on va voir que je me sers de la parole de Dieu, que Dieu me donne pour que je le comprenne. Ce que j'atteins à travers ce que je comprends est infiniment au-delà de ce que je comprends. Quand vous dites Dieu est Père, vous comprenez quelque chose, parce que la paternité, c'est bon, on en a une vague connaissance. Mais mon intelligence, vous voyez, se laissant prendre par la grâce de Dieu à travers mon acte de foi, vie de la paternité de Dieu d'une manière qui est infiniment au-delà de tout ce que j'en comprends. Oui.
Tu peux préciser, est-ce que c'est au-delà de ce que j'en comprends ou est-ce que c'est au-delà, comme tu disais tout à l'heure, de toute capacité de jugement ?
Ah ben c'est au-delà, oui, c'est au-delà de toute capacité de jugement. Oui. Non, c'est au-delà de toute capacité de jugement. C'est-à-dire que je sais que ce dont je vis, il n'y a que Dieu qui le comprend. Voilà. Ce qui n'est pas commode à vivre d'ailleurs. Parce que vous voyez, de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui comprend ce que je suis et comment je fonctionne, et que moi j'ai même plus le droit d'essayer de le comprendre, vous voyez, c'est pas très commode. Et pourtant c'est ça. Parce que plus Dieu vit en moi, et moins ce qu'il y a d'essentiel vous voyez, ce qu'il y a d'essentiel dans ce que je vis, qui est ma vie chrétienne, je ne la comprends. C'est normal que je ne la comprenne pas, ma vie chrétienne. Elle n'est pas à la mesure de mon intelligence. Alors je vais faire un effort, vous voyez, pour essayer de marcher au pas de Dieu, donc d'avoir une intelligence, vous voyez, qui soit docile au signe et à la parole de Dieu. Mais le mystère, il est complètement au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a que par l'amour que mon intelligence adhère au mystère. L'intelligence comme telle ne suffit pas. Mais ce qui me reste toujours à faire, vous voyez, c'est de nettoyer les vitres, si vous voulez. C'est-à-dire d'essayer de me préparer avec mes petites forces à moi, qui sont, c'est sûr, rien du tout à côté de l'intelligence de Dieu, le mieux que je peux à recevoir cette lumière et à vivre de ce mystère. Il y a une disproportion énorme, si vous voulez, entre tous les efforts de mon intelligence et ce que Dieu me donne de vivre. Mais ça n'empêche que ce que Dieu me réclame, c'est de faire cet effort. Et ce qui est facile, c'est de dire, de toute façon, ça ne sert à rien, puisque je n'y arriverai pas. Donc, il suffit de s'installer dans son fauteuil et de... Oui, c'est important de voir que... C'est pour ça que c'est complexe, la foi. Hein. De distinguer la manière dont je la vis subjectivement. Subjectivement, je la vis comme une croyance humaine. D'accord ? Ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un don de Dieu, et comment ce don de Dieu, j'y coopère et j'ai à y coopérer par le don de mon intelligence et par le don le plus intelligent qui soit de mon intelligence. Vous voyez, il y a trois aspects. Il y a l'aspect subjectif dont je le vis, le vécu de mon acte de foi, qui est exactement comme la croyance humaine, qui des fois ressemble plus à la méthode Coué qu'à autre chose. C'est vrai, psychologiquement, c'est pas brillant la foi. Faut le voir, c'est vrai. Parce que c'est débile comme connaissance. C'est vrai, c'est comme précisément vous voyez, la connaturalité ou le lien entre le mystère. Ce que Dieu me dit. Donc accueillir ce par quoi Dieu se révèle, l'instrument, vous voyez, dont il se sert, la parole ou le geste, ou la personne. Dieu se sert des événements. Dieu se sert d'un certain nombre d'instruments et à travers ça, donc c'est pour recevoir ça dans mon intelligence et à travers ça, recevoir le mystère de Dieu et la sagesse de Dieu qui est Dieu lui-même, le regard de Dieu sur l'homme et sur la création. Ce qui est très mystérieux, c'est ce qu'on a du mal nous à comprendre, c'est que le regard de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous, ce qu'on comprend, c'est pas nous. Alors que Dieu, ce qu'il contemple, c'est lui-même. Et il contemple l'homme en lui-même, en lui, en Dieu. C'est pour ça que c'est, vous voyez, c'est pas le projet quand on va parler du plan divin. Dieu, il n'a pas des plans. Il a un objet de contemplation et cet objet de contemplation, c'est lui-même. On a beaucoup de mal à ne pas trop projeter nos... Alors, qu'est-ce que je reçois ? Je reçois ce par quoi Dieu me parle, ce par quoi Dieu se révèle, et je reçois celui qui se révèle à travers ça, c'est-à-dire lui-même. Alors, le recevoir dans la foi... Ça va impliquer que mon intelligence adhère à ce que Dieu me dit et à ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence adhère ? Ça veut dire que l'intelligence se porte vers une vérité et vers une réalité qu'elle ne comprend pas. Vous voyez, encore une fois, quand humainement vous croyez en ce qu'on vous dit, si vous analysez ce que vous faites, votre intelligence, entre guillemets, fait comme si c'était vrai. Vous voyez, comme si elle en avait l'expérience. Quand vous avez l'expérience, votre intelligence reçoit la réalité. D'accord ? Et elle le fait en plus avec évidence. C'est pour ça qu'il y a un jugement d'existence. Quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous croyez, il n'y a pas de jugement d'existence. Mais vous le recevez avec prudence, si vous voulez. Avec plus ou moins de force. Quand c'est Dieu qui se révèle à moi, je le reçois d'une manière encore plus réelle que le jugement d'existence. C'est ça qui est très particulier dans la parole de Dieu. C'est que je reçois ce que Dieu me dit comme quelque chose d'encore plus réel que ce que j'atteins de manière immédiate. C'est pour ça que, si vous voulez, plus je suis les pieds sur terre, et plus ma foi peut être réaliste. Parce que je comprends que ce que j'atteins dans la foi est encore plus réel, et la manière dont je l'atteins est encore plus certaine que mon expérience immédiate. C'est plus, dans la foi, c'est plus certain que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, que c'est certain pour mon intelligence que ça c'est une table. Alors vous voyez le risque. Le risque, c'est que, c'est vrai, c'est plus certain. Le mystère de la Trinité, que l'existence de la table. Mais c'est plus certain à cause de la foi. C'est-à-dire à cause de l'attraction de l'amour et de la lumière de Dieu sur moi, donc à cause de la foi mue par la charité. Si vous voulez, à cause, je dirais, de l'extase de l'intelligence qui adhère à quelque chose qu'elle ne comprend pas à cause de l'attraction d'amour de Dieu sur moi. Alors le risque, c'est que si j'oublie que ça c'est la foi, je vais dire, mais oui, la Trinité c'est plus certain que la table. Et au fond, au bout d'un certain temps, la table, je suis même plus sûr qu'elle existe. Ce dont je suis certain, c'est que la Trinité existe. Mais vous riez, Descartes, c'est une laïcisation de la foi. Je suis plus certain du regard de Dieu sur moi et du fait que... Vous voyez, je suis plus certain de ma cogitation théologique, au terme. Je suis plus certain de ma foi, de ma cogitation de foi, que du réel.
Oui. C'est pas le même type de certitude aussi.
Non. Dans un cas, c'est une certitude qui est évidente, précisément. Là, c'est... Mais ça, par contre, la Trinité, c'est infiniment moins évident. C'est pas du tout évident. Il n'y a aucune évidence. Alors que là, il y a une évidence plénière. Mais du coup, oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que de recevoir ce qu'est Dieu avec cette certitude dans la foi, ça a immédiatement des incidences pratiques. Parce que vous comprenez que la table soit une table, ça c'est important parce que je peux poser ma craie dessus. Ben, ça, vous voyez, c'est pour ce qu'on va revoir. Hein. La foi n'est pas quelque chose de spéculatif. C'est pas quelque chose d'abstrait, la foi. C'est pas une connaissance abstraite. Précisément parce que ce que je reçois, c'est quelqu'un. Et du coup, la foi, elle est éminemment pratique. Et elle devrait avoir des conséquences plus concrètes que le fait que ça, c'est une table. Elle est faite pour ça, si vous voulez. Elle est faite pour que la présence de Dieu... devienne quelque chose de plus permanent, vous voyez, que la propre activité de mon intelligence et de ma vie. Dieu comble son bien-aimé même quand il dort. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on arrête d'exercer la foi quand on dort ? Pourtant, parce que ça prouve, la moitié de sa vie, on aura perdu du temps. Oui, c'est ça. Est-ce que l'intention demeure quand on s'endort ? Mais ce n'est pas ce que c'est la foi. C'est vrai, on est, quand on dort, on est dans l'état du petit enfant qui reçoit la foi au baptême, qui n'a aucun exercice par lui-même. Ce serait une bonne manière, vous voyez, de montrer ce que c'est que pour le baptême des petits-enfants. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est... Alors, oui, la dernière chose, qu'est-ce que ça change en moi? Ça change tout. Ça change tout parce que... cette présence de Dieu en moi par la foi... elle est plus radicale que tout. Et donc toute ma vie, absolument toute ma vie, hein, il n'y a rien dans ma vie humaine qui ne puisse pas être regardé dans cette lumière de foi, qui ne puisse pas être vécu dans la foi. C'est, vous voyez, j'irais, étant donné ce qu'est la foi, ce n'est pas possible autrement. Alors nous, il y a des choses dont on considère que ça relève de la foi, mais il y en a d'autres, on considère que ça ne relève pas de la foi. Éplucher les pommes de terre, ça ne relève pas de la foi. On a tort. Ma foi peut être exercée même en épluchant les pommes de terre. Parce que mon intelligence est présente. Et mon intelligence, elle est faite pour être radicalement dans sa source, offerte à Dieu, même quand j'épluche les pommes de terre. Ce qui ne me met absolument pas dans les nuages. Ça me rend encore plus attentif à mes pommes de terre. C'est la différence entre la foi contemplative et la dévotion. La dévotion, ça me distrait de l'épluchage des pommes de terre. Alors ce qu'on va regarder maintenant, donc c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est la médiation, ce par quoi Dieu se révèle à nous. Donc on a vu, c'est la parole, le geste, la personne, c'est les hommes, et c'est l'histoire humaine, les événements. L'histoire du peuple d'Israël en premier lieu, mais aussi l'ensemble de l'histoire. Oui, c'est ce que dit Gaudium et Spes dans le Concile, c'est que les signes des temps, ils ne sont pas simplement, est-ce que dit, répète le Saint-Père dans l'exhortation apostolique sur les, non, post-synodale, sur les fidèles laïcs, c'est que les signes des temps, ils ne sont pas simplement à lire dans l'histoire de l'Église, ils sont à lire, Dieu est présent dans toute l'histoire des hommes. Mais ce qui est très important, et on va le revoir, c'est de respecter l'ordre. Dieu ne se révèle pas d'abord à moi par l'histoire. Il se révèle d'abord par la parole. Il a parlé avant de demander quoi que ce soit à Abraham. Vous voyez, il ne lui a pas d'abord de proposer un programme. Et d'une certaine manière, c'est très beau, il a commencé par faire sortir d'une certaine manière Abraham de l'histoire. Parce que l'histoire à cette époque-là, c'était la civilisation d'Ur. Vous voyez, c'était la civilisation de la Mésopotamie. Or, il le fait sortir de l'histoire. Donc c'est d'abord la parole de Dieu, et Dieu s'adresse à l'homme à travers un langage humain, on va le voir. Ensuite c'est ceux que Dieu choisit comme témoins, les prophètes, les juges, les patriarches. Et ensuite c'est l'histoire. Alors ce qui est très vrai, c'est que je dois respecter ce à travers quoi Dieu me parle. Et que quand il me parle à travers Isaïe, c'est pas la même chose que quand il me parle à travers Abraham, que quand il me parle à travers Samson, quand il me parle à travers le Christ ou Saint Paul. C'est toujours Dieu qui parle. Et vous voyez, il prend des intonations de voix et des langages qui ne sont pas toujours les mêmes. Celui qui parle est toujours le même. Mais la manière dont il parle n'est pas toujours la même. Et c'est vrai que pour mieux le comprendre, il vaut mieux que j'essaye de comprendre. Oui. Quand quelqu'un parle de manière métaphorique, de manière humoristique, de manière menaçante, de manière rhétorique, de manière, il y a de multiples manières de parler. Si vous ne faites pas attention au registre sur lequel il est, vous risquez de faire de grosses bêtises. Si vous vous énervez alors qu'il est en train de faire de l'humour, vous voyez, si vous êtes en train de plaisanter alors qu'en fait il est très sérieux, s'il prend un mode symbolique et que vous prenez ça au pied de la lettre. Non mais c'est tout le temps comme ça. Ben, c'est la même chose par rapport à Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est intelligent et donc il n'a pas qu'une manière de parler. Il a de multiples manières de parler qui correspondent à toutes les formes d'intelligence en plus. Si vous lisez la Bible, il y a normalement toujours au moins un endroit où Dieu a une manière de parler qui correspond à nous, à ce qu'on est. Tant pis pour ceux pour lesquels c'est le livre des nombres, mais... Ça dépend les matheux. Alors, encore une fois, c'est pas l'objet formel de la foi. C'est-à-dire que c'est pas d'abord ça que je reçois dans mon intelligence, c'est d'abord Dieu. Mais dans la lumière de Dieu, encore une fois, je reçois les instruments qu'il me donne. Alors on va voir qu'il y a deux manières de recevoir ces instruments. Cette parole, ces événements, cette histoire. Donc ça, c'est ce dont Dieu se sert. Il faut que je le reçoive. J'essaie de le comprendre. J'ai deux manières de le comprendre. Ou bien je le comprends dans la lumière de Dieu. Et dans la lumière de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire en regardant quelle est l'alliance de Dieu avec l'homme. L'alliance après la création, vous voyez dans la Genèse. Et en voyant comment Dieu veut communiquer à l'homme, veut révéler à l'homme son amour pour lui et le faire participer à sa bonté. Ça, c'est la première manière. Et alors à ce moment-là, dans la lumière de la communication de la bonté, je vais regarder comment est-ce que la bonté, elle va se communiquer par la parole, par le geste, par les personnes, par les événements et l'histoire. Puis j'ai une autre manière de travailler, qui est de prendre ces mêmes réalités et de les regarder scientifiquement. Donc d'essayer d'étudier historiquement, avec toute la rigueur historique que ça implique, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'humanité. D'étudier scientifiquement les personnes, c'est beaucoup plus difficile. Enfin si, il y a une manière, c'est la manière littéraire, d'étudier le personnage. Vous voyez ? Qu'on appelle la sémiotique, c'est ça, c'est d'étudier la figure d'Abraham. Quelle est la cohérence symbolique de la figure d'Abraham ? Donc quelle est la construction du personnage ? Alors vous voyez, rapidement on va glisser, parce qu'on va passer de la figure d'Abraham à la manière dont est construit le personnage d'Abraham. Et à la fin on vous parlera plus que du personnage d'Abraham et on s'occupera même plus de savoir s'il existait. Et si c'est quelqu'un. Et même chose pour la parole. Vous allez étudier la structure de la parole. Alors, c'est pas contradictoire, mais si je commence par ça, je risque de ne jamais comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez une parabole ou les évangiles de l'enfance, vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'enfance dans la sagesse de Dieu. Et pourquoi est-ce que pour parler de l'enfance du Christ, Dieu prend un certain langage ? Et puis vous pouvez, c'est pas contradictoire, essayer d'analyser la structure littéraire, c'est-à-dire l'organisation littéraire des évangiles de l'enfance, le fonctionnement symbolique, si vous voulez. Quand vous regardez le peuple d'Israël, vous pouvez essayer de comprendre l'organisation de l'histoire du peuple d'Israël, les influences, les conflits. Et puis vous pouvez essayer de voir comment est-ce que l'histoire du peuple d'Israël est le lieu le plus souvent de la révélation du péché de l'homme. C'est deux regards qui sont complètement différents. Alors, je peux prendre le second qui est celui des sciences à partir du moment où j'ai pris le premier. Le risque, c'est que si je commence par la science, j'en vienne jamais au premier regard. Mais si je me contente d'étudier la structure littéraire, la structure du langage, la structure de l'histoire, la cohérence historique, je vais entrer dans un regard, vous voyez, scientifique, dont l'objet va être le peuple d'Israël, la langue hébraïque, et les différents types de discours au Moyen-Orient, à l'époque, ont été rédigés, tel ou tel texte de l'Écriture. Et je risque, après ça, d'essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça. La difficulté, c'est que je ne me rends pas compte que j'ai pris une méthode. Qui est une méthode qui ne, vous voyez, qui ne, comment dire, qui ne correspond pas à l'intention de Dieu. Un livre de l'Écriture, Dieu ne me l'a pas donné comme objet d'étude scientifique. Il me l'a donné comme objet de foi, comme moyen pour croire. Je peux l'étudier scientifiquement, et ça peut me rendre plus intelligent pour le comprendre, mais il ne m'est pas donné premièrement comme ça. Pour vous prendre un autre exemple concret. Quand on lit l'Apocalypse, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le style apocalyptique et d'essayer d'éclairer l'Apocalypse par tous les autres écrits apocalyptiques. Vous voyez, de faire une herméneutique des symboles à partir de ça. Vous faites des fiches, un bon ordinateur peut faire ça assez bien. Ou bien vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce que l'Apocalypse me dit du mystère du Christ. Et essayer de comprendre les symboles dans la lumière du mystère du Christ. Ce qui est beaucoup plus difficile. Hein, parce que dans un cas, vous êtes dans la foi, dans l'autre cas, vous êtes avec des méthodes purement scientifiques. Ben, c'est important de voir que la manière propre de travailler sur la parole de Dieu, c'est celle qui fait que je m'en sers comme une parole humaine et pas d'abord comme un objet scientifique. Ou l'histoire du peuple d'Israël, je la prends comme une histoire de personne humaine et pas d'abord comme un événement historique à étudier selon une méthode historique. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est important de voir les deux regards qui sont très différents. Et de voir que, en plus, je dois respecter précisément le relief qu'il y a dans l'Écriture. Je n'ai pas à étudier de la même manière le livre des Nombres, l'Évangile selon saint Jean et une épître de saint Paul. Vous voyez, je ne suis pas de la même manière en présence de Dieu. Ce que dit le Concile, hein, l'Évangile, c'est dans Dei Verbum, les Évangiles me mettent plus immédiatement en face du mystère du Christ et du mystère de Dieu que les épîtres de saint Paul et encore plus que l'Ancien Testament. Donc vous voyez, l'utilisation de l'histoire et des méthodes scientifiques, exégétiques et historiques n'a pas la même importance et n'est pas à être utilisée de la même manière selon les différents lieux que j'étudie. Et que par exemple, c'est évident que quand on lit la Genèse ou que quand on lit le livre de l'Exode, l'élaboration du livre de l'Exode par les diverses traditions du peuple d'Israël, ça peut être intéressant d'étudier ça, parce que ça me permet de mieux comprendre la cohérence interne de la construction du livre de l'Exode. Ceci dit, ça ne me fait pas plus comprendre ce que dit Dieu quand il dit « Je suis celui qui suis hein. ». Parce que ça, c'est pas en creusant historiquement que je le comprendrai. Mais quand dans l'Évangile, l'essentiel, par exemple dans l'Évangile de saint Jean, l'essentiel des affirmations du Christ ne sont pas des affirmations à comprendre en fonction d'un contexte historique, mais sont à comprendre en fonction du mystère de Dieu et en fonction du mystère de l'homme. Donc vous voyez, au-delà du contexte historique. Et donc j'ai à comprendre quels sont les livres dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, je dirais, où Dieu se cache plus derrière une opacité humaine plus grande, et où là, la méthode exégétique et la méthode historique devient plus importante, et quand Dieu se révèle de manière beaucoup plus limpide. Vous voyez, quand vous lisez l'Ecclésiaste, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ecclésiaste, ben c'est sûr que je ne peux pas recevoir l'Ecclésiaste de la bouche de Dieu comme je reçois le discours après la scène dans saint Jean. J'ai à être intelligent, je ne peux pas le recevoir de la même manière, parce qu'il y a des affirmations dans l'Ecclésiaste. Si vous les séparez du contexte, c'est complètement achrétien. C'est même athée et désespéré. Vous voyez, donc c'est important de voir que je dirais, c'est le mystère de Dieu et le mystère du Christ qui vont m'apprendre à regarder d'une manière théologale, si vous voulez, donc dans la lumière de Dieu, la parole de Dieu elle-même. C'est Dieu qui éclaire sa parole, avant que ça soit l'étude humaine. Mais pour préciser, on s'intéresse au contexte, si vous voulez, de la parole de Dieu dans la lumière de ce qui m'est dit. Et c'est tout le problème entre ce par quoi et ce qui m'est dit. Ce qui est dit et puis la réalité qui est Dieu. Ça, c'est la signification objective. Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme ». Où l'évangile nous parle du Fils d'homme, l'Apocalypse aussi. Le Fils d'homme, ça implique toute une quantité de références dans l'Ancien Testament énorme, et toute une élaboration, notamment dans le livre de Daniel. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est la signification, à partir de l'Ancien Testament, du terme Fils d'homme. Mais la signification de ce qui m'est dit dans le terme fils d'homme n'est pas nécessairement à comprendre uniquement en fonction de ce que je vois dans l'Ancien Testament. Le Christ n'est pas dit le fils de l'homme dans le même sens qu'il est parlé du fils d'homme dans le livre de Daniel. Et pour savoir qu'est-ce que le Christ me dit, c'est à lui qu'il faut que je le demande. Vous voyez, c'est à ma foi. C'est pas à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, elle me prépare. La signification qu'il y a dans l'Ancien Testament me prépare. Mais ce n'est pas elle qui me donne la signification, vous voyez, qui me donne ce que je dois croire à travers ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le respect que Dieu a par rapport aux instruments dont il se sert, moi aussi j'ai à l'avoir. Mais vous voyez, je dirais, j'ai à la voir avec la liberté que Dieu a lui-même. Dieu n'est pas limité par l'instrument dont il se sert. Et il est capable, avec des instruments tordus, de révéler des merveilles. Bien moi, de la même manière, quand je le lis, j'ai à distinguer l'analyse de l'instrument et l'adhésion de foi à ce qui m'est dit. En sachant que, encore une fois, ce qui est objet de révélation, ce n'est pas d'abord la vie d'Isaïe, la vie de Jérémie, la vie d'Amos, et ou je ne sais pas trop quoi, les rapports entre Moïse et Aaron. Ce qui m'est révélé, c'est le mystère de Dieu, à travers ça. Oui, c'est comme le vitrail, on risque de s'attarder sur le vitrail et d'oublier la lumière qu'il y a derrière. C'est ce que vous voyez, c'est le risque d'aujourd'hui, c'est de découvrir qu'effectivement on peut étudier le vitrail pour lui-même et que quand on regarde de près le vitrail, on comprend mieux la splendeur de la lumière qu'il y a derrière. Mais le risque, c'est de s'attarder sur le vitrail et d'oublier de voir que ça ne se comprend que dans la lumière qui l'éclaire. Et donc d'étudier scientifiquement, littérairement, historiquement, même de méditer humainement la parole de Dieu, c'est une préparation. Mais le seul qui puisse me donner la véritable lumière, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que si vous voulez, d'une certaine manière, c'est ça qui est très fatigant, on n'a jamais compris la parole de Dieu. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est moins, elle est un chemin plus immédiat vis-à-vis de Dieu. Tout le travail qu'on fait sur la parole de Dieu, c'est pour désensabler les cheveux, pour enlever les barricades, pour que la parole devienne un chemin qui me mène vers Dieu. Je dirais presque que le travail sur la parole de Dieu, c'est pour passer au travers de la parole de Dieu. Alors un dernier point sur les rapports entre la foi et l'intelligence, qui était pour comprendre au fond... Quelle est la place de la foi par rapport aux autres types de connaissances? On a vu que la foi a à la fois la pauvreté de la croyance humaine et en même temps, elle a une certitude qui est infiniment au-delà de toutes les connaissances humaines, même que les connaissances scientifiques. Mais pour vivre de la foi, j'ai besoin à la fois de la réflexion, on va le voir, de l'enseignement de la foi et de la réflexion théologique ou catéchétique sur la foi, de la réflexion doctrinale, si vous voulez, et de la vie. Mais c'est important de voir que la foi, elle est au-delà de la distinction entre l'aspect doctrinal et l'aspect pratique. Mais nous, parce que c'est la même chose, on est dans le devenir et donc on a besoin de faire les deux. On a besoin de distinguer les deux. C'est vrai que la foi, elle est faite pour me faire vivre de manière contemplative.
Très clair.
Bon, me faire vivre, ce côté pratique, hein, de manière contemplative. La foi, c'est fait pour... c'est ça. La foi, normalement, elle me fait vivre de manière... ça veut dire qu'elle me fait vivre dans la lumière de Dieu. C'est ce que dit, ce qui est très beau, ce que dit Dieu à Abraham, marche dans ma présence. Marcher, et ce que dit Saint Jean, marcher dans la lumière de Dieu. Ce n'est pas marcher simplement avec la lumière de Dieu. Ce n'est pas simplement marcher éclairé par Dieu. C'est marcher dans la lumière de Dieu pour bien montrer que la foi, elle enveloppe toute ma vie. C'est une lumière aussi bien pratique, aussi bien dans l'ordre de la charité fraternelle, dans l'ordre du service fraternel, que dans l'ordre contemplatif, dans l'ordre doctrinal, dans l'ordre de la transmission de la foi. Mais nous, on a besoin de distinguer les deux, sans les opposer. Vous voyez, vous avez aujourd'hui souvent une opposition entre la foi et l'intelligence. Alors on vous dira, l'intelligence, c'est le domaine du doctrinal. C'est l'aspect de ce qu'on appelle l'orthodoxie. Et la pratique, c'est ce qu'on appelle l'orthopraxis. C'est-à-dire que la vie du chrétien, c'est pas, ne se juge pas à la vérité de ce qu'il croit, mais à la vérité de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on a cette tendance, des deux côtés d'ailleurs. Vous voyez, à dire au fond, la foi, l'important c'est de savoir ce qu'il faut croire. Une fois que j'ai bien appris mon catéchisme, je vis de la foi, c'est sûr. J'y crois. Et l'autre excès, c'est de dire pas du tout, c'est complètement abstrait ça, ce savoir-là. La foi, c'est simplement du côté pratique. L'aspect intellectuel, il n'est même pas un moyen, c'est plus une voie d'erreur qu'autre chose. Et le Christ n'a jamais dit qu'il fallait spéculer. Il n'a jamais dit qu'il fallait faire de la théologie. Il n'a jamais dit qu'il fallait réfléchir. Il a dit qu'il fallait être intelligent dans l'ordre de l'amour. Donc la foi, c'est une intelligence pratique dans l'ordre de la charité fraternelle, du service, de l'engagement humain et de l'amour. Et donc, l'aspect doctrinal, c'est de la perte de temps. Mais je durcis un peu, mais c'est... vous avez tout un discours théologique qui s'appuie là-dessus. La théologie, souvent, certaines théologies de la libération s'appuient sur cette distinction-là. En disant, ben voilà, les théologiens, et notamment les théologiens de Rome, sont des gens qui vivent dans l'orthodoxie, mais qui n'ont jamais mis leur doigt, vous voyez, qui n'ont jamais mis la main à la pâte et qui ne sont jamais rentrés dans les problèmes concrets de la vie, alors que la seule chose qui juge la vérité de ce que je dis, c'est ma vie. Si je vis ce que je dis, c'est vrai. Mais si je pousse jusqu'au bout, c'est ça.
N'importe quoi pourvu que je le vive.
Oui, tu dis ?
Je peux dire n'importe quoi pourvu
que... oui, pourvu que je le vive. Alors bon, il y a quand même des limites. Mais les limites, c'est la justice. À ce moment-là, ça sera la justice sociale. Si c'est pour le bien visible de l'autre, à ce moment-là, c'est juste. Alors, je dirais, c'est la même chose, cette critique, il faut la recevoir. Parce que c'est vrai que la foi, c'est pas simplement... vous voyez, c'est pas un problème purement doctrinal, la foi. L'aspect doctrinal... qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence du croyant oui, je dirais presque qui s'exerce à croire. Le catéchisme, c'est ça. Enseigner la foi, c'est aider l'autre à croire. La foi, on ne la lui donne pas, donc on ne la lui communique pas, la foi. La seule chose qu'on peut lui communiquer, c'est de la manière la plus intelligente possible qui soit, ce qui nous permet de croire. Ce qui nous conduit au mystère. parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est simplement donner à l'autre ce par quoi il va adhérer au mystère. Le mystère, vous ne pouvez pas le lui donner. Et donc c'est vrai que l'aspect doctrinal il est ordonné à l'adhésion de foi. Si vous voulez, la foi, ce n'est pas le credo. Le credo, c'est fait pour croire. Mais la foi, ce n'est pas le credo. Le credo, c'est ce par quoi je crois. La somme théologique, ce n'est pas la foi. L'enseignement du pape, ce n'est pas la foi non plus. C'est ce par quoi je crois. Vous voyez, c'est important de ne pas bloquer les deux. Vous voyez, la norme de ma foi, c'est Dieu lui-même. La mesure de ma foi, c'est Dieu, c'est pas l'Église. L'Église, elle est là pour vérifier que je ne dis pas des choses de travers, que ce dont je me sers pour croire n'est pas de travers. Et vous voyez, c'est important de voir que tout l'enseignement de l'Église, c'est pas la foi. Ensuite, j'ai envie de dire, tout reste à faire. L'Église, elle se contente de baliser les routes, de dégager le chemin et de vous dire, ben maintenant, allez-y. Mais c'est pas parce que j'ai un petit bouquin dans lequel je sais que tout est vrai que j'ai la foi. Mais je dirais ensuite, il faut que j'y aille. C'est pas simplement parce que je sais intellectuellement que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que j'ai confiance dans l'Église, c'est vrai et c'est un mystère, que j'y crois. J'y crois au sens de la croyance. Parce que l'Église est une institution digne de crédence, de créance, et que, je lui fais confiance. Mais j'ai pas encore exercé une seule fois ma foi à ce moment-là. Oui, c'est parce que dans le langage courant, on dit « j'ai la foi », ça veut dire que je suis d'accord avec ce que l'Église enseigne. C'est pas la foi. Il y a des gens qui sont d'accord avec l'Église, qui sont d'accord avec ce que l'Église enseigne, et qui n'exercent quasiment jamais leur foi. Vous voyez, tout dépend, qu'est-ce que ça veut dire être d'accord. Si je vis à travers ce que l'Église me donne à croire, du mystère lui-même, alors d'accord, j'ai la foi. Et précisément, si c'est une adhésion, on l'a vu, une adhésion vivante au mystère même de Dieu, ça ne peut pas ne pas être pratique. Puisque Dieu, il est plus concret, il est plus personnel que tous mes frères. Donc vous voyez, je dirais, dire que la foi est contemplative, c'est dépasser l'opposition entre l'aspect doctrinal et l'aspect pratique. Ou dire tout simplement que la foi est théologale, parce que ça veut dire qu'elle est divine. Que Dieu, il n'est pas abstrait. Il est au-delà de la distinction entre l'abstrait et le concret. Il est réel, c'est tout. Et c'est pour ça que la parole de Dieu... Et l'intelligence de la foi, donc si vous voulez, maintenant je regarde la croissance de la foi, la croissance de l'intelligence de la foi. Elle va se faire à la fois par l'approfondissement doctrinal et par la vie pratique. Vous voyez, je dirais, il y a certaines dimensions du mystère de Dieu, il y a une certaine profondeur du mystère de Dieu que je ne découvre qu'en purifiant mon intelligence à l'aide de la réflexion doctrinale, et qu'en purifiant mon intelligence à l'aide de ma vie chrétienne. Et j'ai besoin des deux. Du point de vue humain, normalement, si on est humain, c'est ça. Voyons, on s'aperçoit bien que la croissance de l'intelligence, elle implique à la fois une réflexion immanente, et à la fois elle implique une vie. Celui qui réfléchit tout le temps et qui vit jamais, il ne progresse pas. Mais celui qui vit tout le temps et qui réfléchit jamais, il ne progresse pas non plus. Et c'est pas facile, vous voyez, de trouver ce rythme d'effort de l'intelligence pour elle-même et d'engagement de mon intelligence dans la charité fraternelle et dans... Alors l'avantage, vous me direz, de l'adoration et de l'oraison, c'est que ça dépasse les deux. C'est pour ça que là où je suis sûr d'être à la fois dans le doctrinal et dans le pratique, c'est dans l'oraison. C'est dans l'adoration. Là, je suis sûr que je suis à l'endroit où il faut. Donc le seul moyen, c'est de tout vivre dans l'adoration. Et la réflexion théologique et l'épluchage des pommes de terre. Parce qu'à ce moment-là, je laisse Dieu m'enseigner sur ce qu'il est, même à travers l'épluchage des pommes de terre. La petite Thérèse, quand elle explique, quand elle fait la distinction entre faire des choses complètement ordinaires avec un amour extraordinaire, c'est en ramassant les épingles dans les couloirs qu'elle l'a découvert. C'était pas les pommes de terre, mais... Et il faut pas dire que... Vous voyez, elle, en spéculant théologiquement, elle a compris la différence entre le mode et enfin tout ce que vous voudrez, et qu'après ça, elle s'est servie d'un exemple complètement ridicule pour éclairer aux gens simples et qui comprennent pas grand-chose. C'est pas vrai du tout. Je suis sûr qu'elle l'a compris en ramassant les épingles dans les couloirs. Mais avec... Vous voyez, elle les ramassait pas bêtement. C'est ce qu'elle dit elle-même, puisqu'elle elle les ramassait en faisant un acte d'adoration et d'offrande au Seigneur. Mais ça réclamait, vous voyez, je sais pas comment dire, ramasser l'épingle, à la limite, c'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de le faire dans la foi. C'est vrai, parce que de se dire que quelque chose de dérisoire comme ça, c'est une invitation de Dieu à faire un acte d'amour envers lui, et d'amour le plus plaigné qui soit et dans la foi, c'est évident, c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est s'arracher beaucoup plus au train-train quotidien que de ramasser les épingles dans les couloirs.
Ça supplie pas, c'est bien, mais ça supplie pas que Saint-Thérèse fasse ça très bien.
Oui.
C'est pas une exemplarité dans le sens où si on peut faire la théologie, on fait la théologie.
Ah non, non, mais je n'ai pas dit ça. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la théologie va creuser en moi une soif de l'intelligence auquel Dieu va peut-être répondre à travers des événements concrets. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Non, c'est évident. Et Sainte Thérèse, elle ne se contentait pas de ramasser les épingles dans les couloirs, elle réfléchissait. Non, on est d'accord. Oui.
Ça ne remplace pas la somme.
Non, puis ça, elle avait tout un enseignement par les retraites qu'elle recevait et qu'elle a... Très bien. Non, c'est simplement pour dire que le don de la grâce et le don de la lumière dans la foi ne m'est pas donné nécessairement au moment où je suis en train de travailler sur la somme théologique. Normalement, il m'est donné là aussi. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que je découvre qu'il y a une continuité dans mon attitude intérieure de foi, dans toutes mes activités. Et que la soif de l'intelligence, elle est plus radicale que l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel et tout le reste. Mais c'est évident que si je peux faire du travail théologique, ça permet de désensabler les porcs un peu plus vite. Les porcs, P-O-R-T. Alors je crois que c'est dans cette lumière-là qu'il faut regarder, oui, la théologie présentement et la catéchèse, et voir que du coup il y a pas d'opposition entre la théologie, la catéchèse et la vie, et qu'il doit y avoir, vous voyez, comme un espèce de mouvement, je dirais, de va-et-vient permanent. Toute expérience de charité fraternelle, de vie commune, devrait être capable, si mon intelligence est éveillée, d'éclairer ma catéchèse, d'éclairer ma recherche théologique. Et toute recherche théologique devrait éveiller, vous voyez, je dirais, le réalisme de ma foi et de mon intelligence dans la foi vis-à-vis de mes frères et vis-à-vis de ce que je fais. Alors, quand on regarde plus spécifiquement la catéchèse et la théologie, sa finalité, c'est de désenvelopper la parole de Dieu. C'est-à-dire d'exploiter au sens où on exploite une mine, hein, de mettre en lumière, mais c'est difficile de dire qu'on met en lumière la parole de Dieu, parce que c'est plus la parole de Dieu qui éclaire. Mais voyez, oui.
Je dirais plus que la catéchèse, vraiment la faire goûter.
Oui, goûter. C'est vrai. Mais quand elle est élémentaire.
Oui, mais à partir du moment où ils l'ont goûtée, alors.
Après, on peut la désenvelopper, ça c'est vrai. Mais dans ma théologie, il faut que j'arrive à faire toucher le mystère à travers ce que je dis, et ensuite de réussir à éclairer, à montrer ce qui est présent dans la parole de Dieu. C'est à manifester ce qui est présent dans la parole de Dieu. Toute la théologie et toute la catéchèse servent à ça. Oui, c'est des miséricordes pour pouvoir accéder à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est à brut, elle est trop simple. Et en ne voulant l'aborder que directement, il faut que je le fasse. Mais si je ne veux faire que ça, si vous voyez, c'est... Je m'affronte à quelque chose de trop simple, sur lequel je bute. Et le travail de la catéchèse et le travail théologique m'ouvrent des voies d'accès à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on voit très clairement quand on lit Saint Jean. Quand on lit l'évangile de Saint Jean, quand on l'aborde tout seul, bon, ça va, au début on peut avoir la grâce, mais au bout d'un certain temps on finit par sécher complètement. C'est trop, vous voyez, c'est pas difficile, c'est des mots très simples. Il y a 300 mots de vocabulaire dans Saint Jean, il n'y en a pas un seul qui soit abstrait. Et pourtant, on peut tourner, vous voyez, comme des toupies pendant des heures et des heures et des heures, on n'arrive pas, c'est trop simple. Et c'est important, vous voyez, de découvrir que le travail de la catéchèse, c'est sa finalité. Même s'il se sert après ça de moyens multiples et variés, c'est de conduire au mystère tel qu'il m'est donné dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand on voit le concile, c'est très beau. Le concile ne fait que qu'expliciter ce qui est présent dans la parole de Dieu. Alors pour finir, je voudrais faire deux choses. D'abord, la distinction que fait saint Thomas, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, la distinction que fait saint Thomas entre les trois sagesses. C'est-à-dire la sagesse philosophique, la sagesse qui s'appuie sur la recherche de l'intelligence. La sagesse théologique, vous voyez, qui est la coopération de l'intelligence. En fait, il faut le prendre comme ça. On a vu la coopération de l'intelligence à la foi. L'intelligence qui, par la foi, adhère au réel divin, au mystère de Dieu. Il y a une sagesse où l'intelligence ne s'appuie que sur elle-même. Et où elle essaye d'accéder à Dieu par ses propres forces. Il y a une sagesse qui est Dieu lui-même, que je reçois dans la foi. Dieu, il est sagesse. Et dans la foi, je vide cette sagesse. C'est à la sagesse mystique. La sagesse mystique, c'est la participation immédiate par la foi à la sagesse de Dieu. Et puis, il y a le travail intermédiaire qui est d'essayer de mettre mon intelligence au service de la parole de Dieu. C'est-à-dire d'essayer de comprendre avec le plus d'intelligence possible ce que Dieu me dit de son mystère à travers la parole de Dieu. Ça, c'est la sagesse théologique. Mais je dirais, il y en a une qui est un pur don de Dieu où j'ai rien à faire, si ce n'est qu'à vivre dans la foi. Il y en a une où je dirais j'ai tout à faire tout seul. Mais si je développe la sagesse philosophique, celle de l'intelligence humaine, c'est pour la mettre au service de la parole de Dieu. C'est pour offrir, vous voyez, un taureau gras, une victime de choix à Dieu. Et pas lui donner une intelligence qui dort, vous voyez, qui... Et la sagesse philosophique, qu'est-ce que c'est? C'est la vitalité plénière de l'intelligence, c'est tout. La sagesse philosophique, c'est la qualité d'une intelligence qui est pleinement vivante. Parce qu'une intelligence qui est pleinement vivante, elle ordonne. Elle regarde le réel selon l'ordre qui est le sien. L'ordre du réel. Et c'est par la sagesse théologique, par la foi c'est sûr, hein, mais c'est à la fois par la foi et par la sagesse théologique que j'offre à Dieu cette vitalité de l'intelligence. Alors ce que je vais juste finir, c'est vous relire le concile en espérant que ça sera plus clair au terme qu'au début. Donc sur le chapitre 7, je vais vous lire les paragraphes 5 et 6 un peu plus lentement. À Dieu qui révèle, il faut...